Sous la cendre. Descendre à l'endroit précis où la pensée se dérobe, rechercher des lambeaux de traces enfouies et voir, quand l'œil fouille machinalement dans les décombres qui rappellent tous les rêves, l'expérience répétée et l'écriture évidente du désastre. Prendre à un poète son titre, cendre d'écrit, après coup, comme un malheureux présage. Le jeu des couleurs s'est transformé. Il laisse la place à un gris incroyablement friable. C'est juste avant le noir, quand tout a presque disparu, quand les couleurs se sont effacées presque instantanément ou se sont métamorphosées en couleurs insolites qui, dans la douleur et l'impuissance, ont été contemplées en guise de consolation dans le silence. Et le silence n'était alors qu'une marque provisoire d'effacement ou d'effarement. Face au monde, tout parcours est chargé d'aléas, de dépôts, de souvenirs fissurés qu'il s'agit de restituer en s'accrochant au reste d'un souffle sinistre qui a profondément terni le quotidien. Réminiscence imposée qui rappelle notre fragilité. Et avoir le dernier mot, c'est prendre à nouveau la parole. C'est donner du sens à des actes de résistance au temps et à l'espace pour dominer la peur et le silence. C'est trouver un contrepoint au trop-plein de mots, d'images et de sons qui conditionnent l'esprit. Un présent inattendu se construit dans la simultanéité d'images mentales qui s'unissent jusque dans les apparences. Ce présent, d'où tout peut surgir, est un lieu de jubilation autant que d'inquiétude. Il donne le là de toutes les pulsions, celle de la vie éphémère, celle de la mort inéluctable. Ce présent éveille, émerveille. Il lance à nouveau un cri pour jeter un sort au passé. Ainsi, les contours issus des cendres esquissent des symboles immuables. Ils sont la preuve d'un désir de renaître d'un passage antérieur pour sortir, oui, sortir de la réserve. Ainsi, par cette expérience, nul n'échappe au désir de faire éclater d'infinis questionnements, de laisser circuler dans les mémoires de fragiles repères, les sons et les traces qui se combinent au fur et à mesure en d'infinies variations, se heurtent au temps et créent ainsi leurs propres limites. Des mots restent à jamais gravés, épitaphes, épigrammes, on ne sait. Il faut, en dépit de ces contraintes, garder une trace évidente de ce souffle qui évoque les possibles et ne tisse son sens que par une subtile combinaison avec quelques fragments de mémoire nés de fantasmes incontrôlables qui s'étirent en de multiples combinaisons, même si les mots si proches du babil se voudraient aussi cris et violence contre tout ce qui se trame insidieusement pour sortir du brouhaha quotidien. Ils se veulent aussi les prétextes à un regard neuf et à une écoute inattendue pour transformer l'impatience en sérénité. Et ces bribes sont bien les traces inaliénables d'un désir de ne pas disparaître. En s'appropriant ainsi les résidus de la combustion, la voix n'est pas dénuée d'un désir d'en proposer quelques orientations esthétiques, comme si ces cendres devaient être en même temps exhibées et exhumées dans une proposition cultuelle ou culturelle, sous forme d'exhortation, au-delà de l'indécence, de l'évocation des faits, mais sans complaisance, et malgré les circonstances, sans perdre de vue l'approche obstinée, mais difficilement accessible d'une parole qui voudrait malgré tout tendre vers le poétique, comme si la grisaille était la meilleure preuve a posteriori de l'existence. Fa, fa, ré, sol, écrivent les oiseaux sur leur triple portée. Erza Pound dans les Cantos. Comment la voix peut-elle se détacher de la réalité apparente du langage pour jouer avec les mots? Comment donner à la voix cette matérialité dont elle ne peut se départir et qui pourrait la condamner, en fin de compte, à faire elle aussi partie du réel sans en être véritablement tributaire? Il y a d'abord ce problème de la relation entre la chose et le mot arbitraire qui la désigne. L'artifice fondamental de l'écriture vient de là. Le jeu avec les mots a été à la base de cette envie. Ils sont comme des jeux de construction, des mots-valises qui regroupent plusieurs mots. La saturation ou l'éclatement des mots est une manière de ne pas se laisser prendre au piège de la mimésis du réalisme. Des mots à l'intérieur d'autres mots, comme ceux d'Edmond Jabès, des mots coupés en deux et dispersés dans le récit, comme chez Raymond Roussel. Ainsi, dans l'un de ses textes, le mot « hirondelle » était devenu « i », l'instrument qui sert à damer, et « rondelle », pièce de mécanique. C'est d'ailleurs ce mot « hirondelle » notamment qui était devenu obsessionnel. Il avait fait l'objet d'une lente maturation, mais restait obstinément dans le silence, sans perspective pour un poème. Le mot qui désignait cet oiseau était devenu l'enjeu du poème. Tout un programme et un défi, car le mot lui-même ne pouvait pas entrer dans ce poème en cours d'écriture, alors qu'apparemment, mais pourquoi, il s'imposait. Le voir dans un autre texte n'était pas gênant, au contraire, sa rencontre était bienvenue, même déstructurée comme dans le texte de Roussel. Jouer avec ce mot devenait un défi, au début insurmontable. Pourquoi ne pouvait-il pas entrer dans le poème? Quel effet d'autocensure était en activité pour ne pas intégrer ce mot? Les dérives sont toujours intéressantes. C'est une manière de ne pas se laisser emprisonner. Bien que la parole philosophique ne soit pas familière, par hasard, cette pensée de Wittgenstein s'était imposée. Il doit être possible de se laisser guider par le langage. De quelle façon? De la même manière que nous nous laissons conduire par les noirs et les croches d'une partition musicale. Et cela avait été le point de départ pour une dérive autour de l'hirondelle, sans savoir a priori si ce mot devait être un thème, un leitmotiv, un simple prétexte à l'une de ses ruminations habituelles. Pourtant, cette voix qui s'essayait ne voyait pas les traces d'une partition. Elle percevait seulement quelques notes d'une polyphonie improvisée, nourrie par les réminiscences et les sursauts de lucidité. Pourtant, aucun film n'avait permis d'introduire ce mot dans le poème en cours. C'était impossible. Pourquoi? Comment travaille la poésie? Et pourquoi rejette-t-elle certains mots? Pourquoi ce qui est interdit dans le poème serait-il autorisé dans une prose? La voix était encore troublée par ces questions quand, enfin, cette dérive s'était manifestée. Il apparaissait alors que certains mots devaient sans doute faire un passage préalable dans ces étirements du langage que constitue la prose, pour ensuite, éventuellement, trouver une place dans le poème. Comme s'ils devaient d'abord faire leur preuve ailleurs, subir un entraînement et un apprivoisement préalable, pour pouvoir ensuite retrouver cette forme concise qu'est la poésie. Des justifications de cette sorte font écrire. Elles ne sont pas raisonnables. Et pourtant, elle pourrait expliquer pourquoi les hirondelles ne pouvaient pas entrer dans le poème, pourquoi elles n'étaient pas poétiques, alors qu'elles l'étaient pour Ezra Pound, puisqu'il les avait fait pénétrer dans l'un de ses cantos en décrivant le déplacement de ces oiseaux sur les fils électriques au moment de leur départ pour des lieux plus cléments. Évidemment, pour Pound, ces fils étaient ceux d'une portée musicale en même temps qu'un support pour ces hirondelles. Le poète disait savoir lire cette portée en représentant les hirondelles par des lettres correspondant aux notes de musique qu'elles déterminaient par leur placement sur ces fils. Dans un poème aussi chargé de références culturelles, il était étonnant de découvrir un tel agencement empreint de naïveté. La voix ne s'attendait pas à découvrir ici ce jeu qu'elle n'est pas le seul à avoir pratiqué, auquel elle semble croire, contrairement à Francis Ponge qui, dans son poème « Les hirondelles », avoue « Leur notation de l'hymne, ce serait trop facile. » Le langage nous mène vers l'inconnu. Laissons agir l'inconscient. Pour cela, nul besoin de la sophistication des images surréalistes ni de la lourdeur des discours philosophiques. Se contenter de cette errance. Il y a toujours un espace vacant. Personne n'a écrit ce qui défile sous nos yeux. L'hirondelle aura au moins permis en grande partie de créer cet espace que l'on peut considérer comme inouï. Tous les commentaires pour tenter de savoir comment s'impose tel ou tel mot deviennent futiles.